Donc bonjour, je remercie Yann de m'avoir invité aujourd'hui. Effectivement, je m'appelle Yves Quéré, je suis enseignant-chercheur à l'université à Brest. Donc à l'origine, je travaille plutôt dans le monde des technologies. Et il y a 5 ans, j'en avais un peu marre de la recherche que je faisais. Et je voulais un petit peu changer les pratiques universitaires, voir si c'était possible en tout cas. Et donc j'ai proposé la création d'un... À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, un tiers-lieu, un nouveau type d'espace à l'université. Et qui avait pour objectif de voir comment on pouvait transformer ces pratiques universitaires, à la fois en termes de recherche et d'enseignement. Et la première action, c'était déjà d'avoir un espace qui s'ouvre à l'extérieur, de voir ce qui se passe en dehors des formats de collaboration très institutionnels, de relations sur un projet de recherche ou de relations entre des disciplines et puis la société. Et donc ça fait 5 ans qu'on a travaillé là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est un espace de 300 mètres carrés qui est au sein de l'université à Brest, qui est multidisciplinaire et un petit espace à Quimper sur l'agroalimentaire dans l'école d'agro de Quimper et un projet d'espace à Morlaix parce qu'il y a aussi un site IUT à Morlaix donc qui dépend de l'université. J'ai pas forcément préparé un discours formalisé. L'idée c'était de présenter d'abord brièvement un petit peu tous les types d'activités qu'on faisait et puis en fonction des questions que vous pouvez avoir, des intérêts que vous pouvez avoir, je peux rentrer dans le détail d'un sujet ou plusieurs sujets en particulier. Donc on est dans cet espace un petit peu universitaire, donc c'est un des objets de la discussion d'aujourd'hui. Ce que je considère être aujourd'hui être un tiers-lieu pour l'université, au sein de l'université, donc qui permet de faire des croisements dans les labos de l'université, des croisements entre différents types de salariés, des gens qui ne se parlent pas d'habitude, hein, un salarié d'un service administratif avec un chercheur d'un labo ou ce genre de choses, ça n'existe pas, ce genre de collaboration habituellement. Quoi. Et aussi un tiers-lieu sur l'extérieur. Quel type de collaboration nouvelle on peut faire avec ce type d'espace qu'on ne faisait pas avant. Et ce qui amène aussi des potentiels ponts entre aujourd'hui des tiers-lieux qui sont complètement à l'extérieur et l'université qui est un petit peu fermée quand même habituellement. Donc on peut se considérer aujourd'hui, à travers les quelques exemples de projets, comme un petit peu un intermédiaire ou un support d'accueil de projets collaboratifs entre l'université et l'extérieur. Ce qui nous a marqué, on est vraiment multithématique. Ce qu'on souhaite, c'est développer l'entrepreneuriat au sens large, tout projet en fait. Tous les gens qui rentrent dans cet espace ont un projet, quel qu'il soit. Et c'est du coup l'entrepreneuriat au sens large. Ça veut dire créer une entreprise, créer un tiers-lieu, changer son parcours de professionnel. Je prends un petit exemple. On a une formation à l'intérieur du Fab Lab qui est un diplôme universitaire entrepreneur de l'innovation dans un monde en transition donc qui a été créé il y a 2 ans et qui est donc sous forme de diplôme universitaire à partir de la rentrée. Donc il y a un salarié de l'université qui travaille, qui est un documentaliste et puis qui travaille dans l'insertion professionnelle des étudiants. Il en avait marre, en gros, il en a marre de bosser là où il est. Et il veut changer son parcours et il s'intéresse beaucoup dans sa vie personnelle au tiers-lieu. Il adore ça, quoi. Il aimerait bien bosser dans un truc comme ça. Et il se dit, comment je peux, dans mon métier, amener cette énergie, cette pratique un peu ouverte de tiers-lieu pour créer un nouveau métier, moi, au sein de l'université. Et donc, il vient faire ce parcours-là. Donc, il a eu un congé de formation pour pouvoir transformer son métier au sein de l'université, sans forcément être obligé de sortir parce que ça colle plus. Alors, c'est ce genre d'exemple qu'on essaye de faire avec tous les profils qui arrivent dans l'espace. Ensuite, on travaille aussi sur des thématiques. On essaie de faire, on n'est pas qu'un accompagnateur de projet. On travaille vraiment sur des projets concrets pour être le plus proche possible du terrain. Bien sûr, on n'est pas aussi proche que des gens qui sont très liés à une thématique. Je pense que si je prends Yann qui est sur la mer, on ne sera jamais aussi pointu, on n'aura jamais une connaissance du terrain aussi pointue que lui. Mais on veut être suffisamment proche pour pouvoir créer des connexions entre thématiques. Et voilà. Et donc en termes de projets, pour donner quelques exemples, hein, on essaye de faire des projets un petit peu démonstrateurs. Donc on participe à la création d'une usine sur Brest Métropole de recyclage des plastiques industriels. Et donc on accompagne une entreprise dans la création de nouveaux services, de nouveaux produits et de la chaîne de production de son entreprise pour gérer des gros flux de déchets plastiques. Et donc ça, on le fait avec la méthodologie Precious Plastic, avec les machines qui viennent de ce projet-là. Et on essaye de développer avec lui des produits cohérents par rapport à la vision qu'on a du recyclage et la réutilisation des matières, etc. Et l'autre exemple d'accompagnement qu'on fait, on essaie d'avoir une vision suffisamment large. Ça, c'est un des sujets qu'on voulait aborder aussi sur la notion de collaboration avec les entreprises. Les entreprises ont des visions, même si elles peuvent adhérer à des visions long terme qu'on essaye de développer dans les tiers-lieux, leur échelle de temps, elle est à quelques mois, quoi. Donc, ce qui leur importe, c'est d'avoir de la rentabilité assez directe. Sinon, ça va fragiliser l'entreprise et elle ne peut pas avancer, quoi. Donc, pour nous, aider les entreprises dans la recherche et développement à se créer un positionnement sur le long terme, c'est intéressant, et il y a des financements pour ça pour les entreprises qui existent aujourd'hui. Donc en tant que tiers-lieu, on peut accompagner une entreprise en tant que prestataire et l'entreprise est payée pour ça. Donc c'est spécifiquement pour les TPE, TPME, PME qui n'ont pas beaucoup de moyens à dédier à ça. Et donc une entreprise comme ça qui bosse sur le recyclage, son modèle économique est basé sur les déchets. Donc on pourrait se poser la question, d'un autre côté on veut diminuer les déchets, comment elle se voit sur le long terme cette entreprise-là? Est-ce qu'elle va promouvoir les déchets au final, indirectement, sans le vouloir? Et donc on l'accompagne aussi dans sa transformation au fur et à mesure pour se dire, une fois qu'il n'y a plus de déchets, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et pas de le penser un an avant, c'est le penser longtemps avant. Donc par exemple, on va travailler avec elle sur les biomatériaux. En utilisant la même chaîne de production, les mêmes investissements qu'ils ont mis en place pour transformer les plastiques, je crée des bioplastiques au départ. J'investis un petit peu là-dedans pour que, au fur et à mesure, mes rentrées ne soient plus des déchets plastiques, ce soit des déchets bioplastiques. Voilà, donc ce type d'accompagnement. Après, donc on a bossé aussi dans le cadre de la santé, dans le cadre du Covid surtout, parce qu'avant on bossait surtout avec l'hôpital sur quelques projets d'innovation. Dans le cadre de la santé, ça a été assez flagrant. Le type de collaboration qu'on a pu faire, quasiment personne ne connaît l'open source, personne ne connaît les nouvelles pratiques de collaboration. C'est vraiment... pour moi, ça a été complètement nouveau de voir comment ça fonctionnait le domaine de la santé, quoi. Les équipements, c'est quasiment que des grosses entreprises américaines qui les développent. Il y a des gros monopoles sur tous les équipements. Et on a vu les problèmes de crise, d'accès à des produits qui sont... moi, je ne pensais pas qu'on pouvait arriver jusque-là, quoi. Et donc l'idée, donc là on a réussi à lancer un premier projet avec l'hôpital pour créer un conteneur de gestion de crise open source sur lequel on va avoir des équipements qui sont disponibles quand on en a besoin, quoi. Et les questions qui se posent, par exemple, là, c'est la concurrence avec le système industriel, la réglementation. Donc les industries sont là autour de nous aussi pour développer des services. Pourquoi mettre en open source des choses qu'une entreprise pourrait développer? Donc, la question, c'est la question de la résilience, de la dépendance sanitaire, et de se dire qu'un projet open source est là peut-être juste en soutien finalement d'une économie quand elle ne peut pas s'auto-gérer. Par exemple, si on disait qu'il y a une entreprise quelconque sur Brest qui fait des visières, par exemple, et qu'un jour on en a besoin, mais qu'elle a pas, elle est pas, son système de production n'est pas adapté pour en produire assez. Ça veut dire qu'on a tout basé sur le potentiel capacité de cette entreprise à sortir des produits, et puis quand on en a besoin, il va se passer 3-4 semaines sans qu'on ait rien, quoi. Donc pour nous, l'open source, il est un moyen de soutien, de donner la possibilité à tout un tas de gens de produire quand c'est plus possible, et quand ça redevient possible, on laisse la place aux entreprises de reprendre le relais, quoi. Donc voilà, c'est pour nous, c'est des moyens aussi d'expliquer des collaborations en open source avec des entreprises. C'est que là on va développer des produits avec des entreprises qui ont plutôt la culture brevet, on leur dit voilà, le contexte d'usage de ce qu'on développe, c'est un cœur, et vous après vous pouvez faire votre économie là-dessus, mais il faut que le minimum vital soit disponible en ouvert. Et pour vous, c'est aussi un potentiel de co-création, c'est un potentiel d'innovation que vous allez pouvoir ramener dans vos projets. Simplement ça, ils l'entendent globalement, mais pour eux c'est du long terme quoi. Donc ils trouvent ça bien, mais ça ne va pas leur rapporter tout de suite. Donc il faut arriver à leur montrer, en plus de leur dire que c'est bien sur le long terme, que c'est bien aussi sur le court terme, ils vont pouvoir avoir des rentrées d'argent. Donc voilà les problématiques sur lesquelles on fait face quand on essaie de travailler avec des entreprises et en essayant de porter une vision à côté, de plus ouverte, de contribuer au commun. Et on est confronté à ça tous les jours. Donc l'autre jour même, pour ce projet conteneur, j'ai demandé un devis à une boîte de Landerneau pour acheter des conteneurs. Et puis je leur ai dit, ce serait bien qu'on bosse ensemble sur ce projet-là aussi, parce que vous avez des compétences. Et puis je leur ai dit, par contre, nous, on développe tout en open source, quoi. Et là, tout de suite, ça part dans les tours. Ouais, mais non, moi, l'ouverture, c'est bon, quoi. On a des petites astuces qu'on veut pas lâcher. Mais en même temps, voilà, c'est juste de voir l'open source comme un truc global, comme ça. C'est juste ouvert ou fermé. Il n'y a pas la subtilité du message qu'on veut apporter. Et ce qui, pour moi, pour un tiers-lieu qui développe en open source, c'est important d'avoir un message rapide et clair et concis sur ce que c'est que l'open source et comment les différents types de collaboration qu'on peut avoir sur ces sujets. Parce qu'il y a des gens qui connaissent ce que c'est, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, et ils vont dire par défaut non, parce que c'est ouvert. Je m'étale un petit peu déjà. Ce que je trouve super intéressant dans ce qu'on développe aussi dans ce lieu-là, c'est ce qui se passe dans les tiers-lieux aussi beaucoup, c'est les rencontres informelles et pouvoir favoriser les rencontres informelles comme c'est le cas ici aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de projets naissent de là, et d'où l'intérêt d'avoir déjà un lieu. Il faut qu'ils favorisent ça, il faut que ça soit... on peut avoir un lieu physique et puis il se passe rien, même s'il y a des gens qui arrivent, les gens ne se parlent pas. Donc il faut que les animateurs fassent en sorte de créer un esprit de bienveillance, un esprit de, quelle que soit la posture des gens qui arrivent, il faut pouvoir pas forcer la discussion, mais faciliter la discussion. Donc ça c'est chouette, et j'ai énormément d'exemples où des étudiants se retrouvaient dans une posture presque d'enseignant vis-à-vis d'un enseignant ou d'un chercheur à un moment donné dans le projet, parce qu'il avait sa compétence, et puis on avait perdu cette étiquette-là dans cet espace-temps à un moment donné. Donc ça c'est des choses assez intéressantes. Ensuite sur le lien, on a dit qu'on parlera un peu du lien maker et puis entrepreneur. Dans toutes les collaborations que j'ai pu faire, donc le monde des makers c'est un peu fermé, je trouve, quoi, dans le sens où il vit sa vie comme dans les tiers-lieux en fait. On vient un peu du même monde, on a créé un tiers-lieu, donc on s'entend bien a priori, enfin globalement, quoi. Mais au final, on a quand même une grosse étiquette qui est posée sur nous, quoi. Et il y a certaines entreprises qui vraiment ont marre de bosser avec les makers, parce qu'ils sont considérés comme des gens qui ne portent pas d'intérêt à l'aspect économique en fait, des choses, quoi. Il faut que ça soit ouvert, il faut que ça soit machin, et puis en même temps, le collaborateur, lui, il a son économie à faire, ça a des choses à faire tourner. Et donc c'est important, d'essayer de trouver le bon discours pour pas que l'image des makers et même l'image des tiers-lieux soit ternie au fur et à mesure, parce qu'on s'enferme dans notre monde, quoi. Et donc ça, je dis ça juste c'est parce que je le vis un petit peu tous les jours, quoi. Et nous, on a ce côté universitaire qui facilite notre vie, hein, on est porté par une institution, donc c'est... On a comme inconvénient la lourdeur de l'institution, mais on est quand même protégé par cette institution. Donc les gens collaborent plus facilement avec nous parce qu'on est un tiers-lieu universitaire. Donc on est a priori les sachants et tout ça. Mais ce qui ne sera pas le cas pour un tiers-lieu extérieur, forcément. Et donc pour moi, je trouve ça génial de voir tous les projets de tiers-lieu qu'on a pu voir déjà aujourd'hui. Parce que c'est pas forcément évident, et puis il faut qu'ils trouvent leur place vis-à-vis d'une institution qui est déjà bien, bien sclérosée quand même aujourd'hui. Est-ce que déjà à ce stade il y a des sujets, ce que j'ai dit, que vous avez envie de. Quelques questions ou des sujets particuliers?
Je suis arrivé juste un peu tardivement, mais je ne sais pas si tu l'as abordé. Tout à l'heure tu as cité une entreprise à qui vous avez dit voilà, nous on travaille en open source.
Oui.
Ce que vous avez fait, comment vous avez construit du dialogue et comment vous avez construit.
C'est en courant parce que c'était la semaine dernière sur cet exemple là. Je vais en donner un autre après, mais celui-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'expliquer que je comprenais tout à fait sa posture de vouloir fermer au départ et que nous on avait un projet avec un objectif d'open source par rapport à ce qu'on voulait faire au final sur la résilience, etc. Mais que ça ne voulait pas dire que c'était que tout devait être complètement ouvert dans tous les sens, quoi. Donc là où j'ai ouvert le truc, c'est que j'ai juste dit, c'est à discuter. On est dans un mode où il y aura de l'ouvert. Maintenant, on va prendre en compte votre posture. Bien sûr, l'idée, c'est pas que votre modèle économique soit complètement cassé parce qu'on a ouvert des trucs que vous ne vouliez pas ouvrir. Et qui peuvent être pour des bonnes raisons. Ouais. Et l'autre exemple, c'était on a en train d'essayer de monter un consortium sur la santé, sur ce projet de conteneur et puis d'autres projets. Et là, il y a deux sociétés, deux TPE. Il y a deux indépendantes et deux institutions, donc l'hôpital de Brest et puis nous. Et en fait, tout se passe super bien, tout le monde adhère à la vision, etc. Mais dès qu'on commence à parler d'un projet concret, tout de suite, la propriété intellectuelle, le papier administratif, comment je protège mon idée, de machin, etc. Et ça tue tout, quoi. Donc c'est assez difficile, j'ai pas tous les éléments de réponse, c'est juste de dire qu'il faut que ça soit un processus qui soit d'interconnaissance des acteurs et de savoir qu'est-ce qu'on ouvre, en particulier sur quelque chose de tangible. On parle pas de ouvert comme ça, sur des choses intangibles par défaut, parce que l'entreprise va se dire ok, tout est ouvert dans tout ce que je vais créer. Donc il faut juste dire qu'il y a une approche, une volonté d'ouvrir un maximum de choses, et quand on va parler de choses tangibles, là on pourra dire exactement ce qu'on fait.
Donc ça on ouvre, ça on le garde, ça c'est en interne.
C'est ça. Donc, pour moi, l'important, c'est que je garde la vision de mon projet. Par exemple, sur ce projet de conteneur, le truc, c'est l'accès au matériel à un instant T. Tout le monde doit avoir accès au matériel de protection. Donc si on arrive à démontrer qu'on peut faire autrement et que je garde cet objectif, pour moi c'est bon, quoi.
C'est presque à eux de chercher comment.
Ouais, ou à moi, mais à un moment donné, c'est mon fil rouge, quoi. Ouais.
Mais c'est intéressant, ça les met aussi dans une posture. Ils doivent aussi être dans une réflexion. C'est l'objectif, c'est ouais. Ça.
Et puis ils comprennent aussi pourquoi j'ai dit de mettre en open source ce truc-là, quoi. Ouais.
Pardon, ouais. Du coup, j'ai une autre question par rapport à l'open source, justement, sur la partie commerciale. Du coup, j'imagine que c'est vous développer des produits avec des entreprises, probablement pour un besoin d'entreprise, etc. Mm-hmm. Et quand ils ont peur de l'open source, donc peut-être, qu'est-ce que c'est cette open source ? C'est quelque chose que vous mettez sur une plateforme qui a vraiment une grosse vision ? Est-ce que c'est simplement un produit qui n'est pas breveté ? Est-ce que c'est... Quelle est l'ampleur de l'open source et du coup le risque pour l'entreprise en fait de perdre son exclusivité sur son produit ? Comment est-ce qu'ils prennent ça comme un énorme risque ?
Donc ça dépend d'où vient la création en fait. Donc si là, par exemple on a fait un projet de distributeur de gel hydroalcoolique open source. Donc c'est nous qui l'avions créé. Donc nous on l'a mis en open source, un Creative Commons à licence commerciale. Donc on voulait qu'il soit déployé, donc on s'est dit on va essayer d'intéresser des entreprises et on va les accompagner pour lancer la production de ce matériel. Donc pour eux, ils en bénéficient directement, c'est pas eux les créateurs, donc ils vont pas poser la question de l'open source. Par contre, ils sauront que s'ils ont des améliorations à faire, ils vont devoir le mettre sous le même format, quoi. Donc c'est juste à eux de mesurer leur intérêt économique, quoi. Après, par contre, s'ils deviennent les créateurs de l'idée au départ, quoi. Là, ça va être plus compliqué, quoi. Ça dépend s'il y a une réelle innovation. Ça dépend de la culture de l'entreprise aussi, quoi. Il y a des entreprises qui sont très, très ouvertes dès le départ, quoi. Et des gens qui voient même une idée qui est imbrevetable, ils vont essayer de la protéger au maximum tout de suite par défaut, quoi. Je sais pas si tu peux repréciser ta question juste pour voir.
Non, si c'était ça, c'était est-ce que du coup vous, dans votre lieu, vous avez une plateforme particulière justement pour mettre en ligne tous ces designs, ou est-ce que vous utilisez d'autres plateformes qui existent déjà, etc. Donne un produit qui peut être développé ici justement localement avec une entreprise d'ici sur un problème d'ici, et puis finalement de. Enfin, je sais justement. Mais qui n'a pas forcément. forcément d'intérêt. Est-ce qu'on arrive à expliquer justement là-dessus que, ouais, que ce sera pas reproduit parce que c'est les seuls en fait, à avoir l'intérêt de ce truc-là, ou très peu reproduit ou...
Il y a deux aspects. Hein. Il y a le problème de la protection de la propriété intellectuelle. Et après, il y a le... Donc, c'est-à-dire qui a fait quoi, quoi. Donc ça, c'est souvent une méconnaissance, en fait, le fait de breveter ou de mettre une licence. Ils ne savent pas que ça peut déjà protéger un droit d'auteur, quoi. Ils ont... c'est marqué, c'est eux qui ont participé à faire telle ou telle chose, quoi. Donc ça, c'est juste une méconnaissance de toutes les possibilités de gestion de la propriété intellectuelle. Et après, c'est sur l'utilisation même d'une création. Parce qu'ils ont peur... Alors ça dépend des objectifs. Hein. Si c'est une entreprise qui veut faire des gros bénéfices sur de la... et de leur contexte concurrentiel, ils vont... c'est assez large, hein, comme question. Donc, certains vont regarder le secteur d'activité. Je prends Decathlon par exemple. Ils vont vachement ouvrir des choses qui vont sur des mêmes produits à eux, mais qui vont attaquer d'autres secteurs d'activité que le loisir. Par contre, dès que tu proposes une collaboration en ouvert dans le loisir, non, pour eux, c'est fermé. Quoi. Par contre, ils n'ont pas de mal à ouvrir sur d'autres secteurs d'activité parce que c'est pas concurrentiel pour leur marché. Donc, il y a ce genre de détails que ce qu'ils vont regarder. Ça, c'est, là, il faut attaquer le principe de co-création, de se dire que si j'ouvre, il y a d'autres acteurs qui vont travailler, ça va contribuer à mon projet. Donc, c'est un petit peu de la R&D déployée. Quoi. Et ça, ceux qui ne font pas de la recherche et développement, ceux qui n'investissent pas, ils ne voient pas ça. Quoi. Ouais.
Tu as dit tout à l'heure que vous aviez réfléchi à une définition entre guillemets, efficace de l'open source.
Alors c'est pas une définition en soi. Alors je parle plutôt d'innovation ouverte parce que l'open source c'est du tangible, c'est des licences. Il y a plein de licences. On regarde par contre comment ça évolue. Donc tu as des licences qui sont plus appropriées à du partage d'images, de fichiers vidéo, etc. Tu as des licences qui sont plus appropriées au développement logiciel. Et nous on s'intéresse en particulier des licences qui protègent les objets matériels. Quoi. Donc tu en as et puis après tu as des licences qui sont quand même un peu fermées en termes de stratégie. Tu as des licences aujourd'hui. Qui permettent de faire du marquage aussi. Arduino par exemple, en fait s'ils ont réussi à développer leur projet, c'est qu'ils ont mis en open source, mais ils ont aussi développé une marque qui s'appelle Arduino. Et du coup l'objet il est reconnu, en plus d'être ouvert, il est reconnu par la marque et les gens vont acheter la marque. Donc il y a des licences qui permettent de faire ça. Aujourd'hui le gros problème c'est la capacité d'un Fab Lab par exemple à bosser avec des entreprises sur ce type de licence. Ça ne protège pas assez le travail industriel. Donc ça c'est des choses qui sont en mouvance, ça est en train de changer un petit peu. Donc, il y a des nouvelles licences, le CERN a développé une licence, il y a d'autres trucs donc qui commencent à penser à ça. Et le deuxième problème c'est la rétribution. Quand tu contribues à une licence, tu n'es pas payé par rapport à ta contribution. Et donc, il y a des projets de licence qui permettent d'imaginer une espèce de monnaie associée à la contribution d'open source sur un projet. Et donc, quand je parle de définition, c'est plus plutôt le concept, la vision de l'innovation ouverte, de se dire que d'un côté, j'ai tout ouvert, le libre, complètement ouvert par défaut, puis de l'autre côté, j'ai le tout fermé. L'innovation ouverte est un petit peu la bulle qui va être un petit peu dans le ouvert et un petit peu dans le fermé. Et puis le but, c'est de montrer aux gens que tout n'est pas obligé d'être soit ouvert, soit fermé. C'est qu'on peut, en fonction du projet, de l'entité, naviguer dans ce monde-là et avoir des choses tout à fait cohérentes. Quoi. Donc on va juste dire pas fermé, pas complètement fermé, pas complètement ouvert.
Deux questions. Peut-être une qui a été précisée au début, mais sur l'accès au site. Sachant que dans les Fab Labs et l'université, il y a de l'ouverture et des questions administratives qui se posent. Est-ce que vous êtes ouvert à des personnes qui sont à l'extérieur de l'université ? Première question.
Oui.
Et la deuxième question, c'est sur le modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tend à imaginer plutôt le Fab Lab comme une structure d'accueil, de découverte et de conception, de fabrication. Comment ça rentre, je dirais, dans le projet d'une université, dans la mesure où il y a de la prestation de services qui se construit ? Comment est-ce que vous articulez ça un petit peu par rapport au projet de financement de l'université ? Est-ce qu'il y a une stratégie avec la baisse de financement qu'on connaît des universités ? Bah, comment vous concevez un petit peu cette intention-là ?
Alors, d'un côté, la première attention, comme je disais, c'était effectivement cette connexion entre l'université et la société. Donc après, comment on le fait, c'était une autre question. Donc ce qu'on a proposé au départ, c'était un espace avec le maximum de liberté sur ce qu'on allait faire pour atteindre cet objectif-là. D'accord ? Donc on a eu cette chance-là d'avoir un petit peu, au départ, en tout cas une carte blanche, un petit peu pour pouvoir expérimenter différentes façons de collaboration avec l'extérieur. Donc on a des gens de l'extérieur qui veulent venir et qui ont encore le droit de venir. Maintenant, ça tend à être formalisé un petit peu par rapport au type d'accès. Et après, en termes de financement, on a acté déjà dès le départ pour garder nous-mêmes une certaine autonomie dans ce qu'on voulait faire, de s'autofinancer au maximum. Donc on ne vient jamais piocher dans les fonds qui viennent dans les labos ou dans les départements d'enseignement. Donc on est sur d'autres types de financement. Et comment ça rentre dans la stratégie de l'université, c'est apporter, pour les étudiants, c'est surtout apporter des compétences transversales. Donc c'est un nouvel objectif que l'université veut à terme faire. Donc compétences de savoir-être, les enjeux des transitions, c'est quoi, enfin tout ce genre de choses, apprendre à prototyper. C'est un lieu aussi de ça rend possible les nouvelles activités de mise en situation, ce que les départements d'enseignement ne peuvent pas forcément faire tout seuls. Donc tout ça, ça répond à des missions de l'université. Et de l'autre côté, pour la recherche, ça amène plus aussi de facilité d'innovation pour les chercheurs. Il y a un grand gap entre la recherche, le sujet de recherche et puis le terrain. Et souvent, on nous demande de faire ce grand pas tout le temps. Et nous, on est un petit peu un intermédiaire qui permet de réduire le pas, parce qu'on bosse avec l'extérieur.
C'est des chairs de Lyon avec des chairs ou avec ce type d'objet pour finir des partenariats ou c'est...
Avec des chairs de recherche par exemple, des choses comme ça. On n'a pas utilisé ce format-là, quoi. Mais,
voilà, on a... Les gens que vous avez plutôt dans ce périmètre, c'est vraiment pour les aider un petit peu sur des domaines particuliers et pas forcément avec.
Tu dis la typologie d'usagers qu'on a ?
C'est plutôt là dans le client, c'est là. Vous répondez à des demandes d'entreprise, si je comprends. En tout cas, vous construisez une partie de la réflexion sur un projet d'hérité avec une entreprise.
Oui.
Et est-ce que sur ces entreprises-là, il y a un transfert qui se fait vers pas les chers potentiellement ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez imaginé ou quelque chose qui n'est pas...
Bah, nous, on a un service d'accompagnement des entreprises dans les transitions, dans l'innovation. Oui. Donc, c'est des prestations qu'on fait payer. À chaque fois, pour garder l'objet universitaire, pour ne pas dériver, on a deux fils, deux principes. Quoi. Le premier principe, c'est on ne fait pas d'activité commerciale, on ne fait que accompagner l'innovation. Donc ça peut être de la mini-série parce que ça sert à un nouveau service ou à un nouveau produit. Mais c'est notre première limitation. Et la deuxième limitation, c'est d'amener une connexion avec le milieu universitaire tout le temps. Donc j'essaie d'impliquer les étudiants, j'essaie d'impliquer les chercheurs dans les projets des entreprises. Quoi. Donc c'est la façon dont on est sûr de ne pas... Donc normalement, on ne peut pas se... on ne peut pas sortir de ce cadre-là. Quoi. Et après, les chairs, je connais un petit peu les chairs industrielles, mais c'est un concept que je ne connais pas trop autrement. Voilà.
Qui finance une recherche, qui participe du financement de l'université aujourd'hui.
Ouais, c'est ça.
Ça devient compliqué. La question était un peu stratégique, effectivement. Est-ce que dans ces nouvelles modalités de financement des universités, il y avait cette recherche de part, notamment l'approche Fab Lab, d'aller voir un peu comment ramener des...
Oui, clairement. Bah, par exemple, donc là, on a un contrat de 4 ans avec la Fondation ILDIS sur la santé. Donc on les accompagne dans la stratégie d'innovation. Eux, ils ont une culture recherche, ils ont des contrats de recherche avec l'hôpital, ils ont une fondation, enfin, il y a la fondation. Mais voilà, pas assez de transferts et pas assez d'autonomie financière au sein de l'entité. Et donc nous, notre rôle déjà, c'est de leur montrer c'est quoi la différence entre la recherche et l'innovation, comment ça peut collaborer ensemble. Et du coup, d'avoir un impact, de transférer plus vite et plus facilement les projets et avoir une meilleure stratégie de recherche. Parce que d'ailleurs, c'est quand on va voir des collectivités, enfin je lance un peu la remarque, mais quand on va voir des collectivités, même des entreprises, on leur demande quelle est la différence entre la recherche et l'innovation. Il n'y a pas un qui est capable de répondre correctement. Quoi.
C'est quoi du coup ?
Ouais.
La recherche, la science et l'innovation, c'est de l'industriel ?
En fait, très rapidement, l'innovation, donc on la voit comme à la fois d'un côté un processus donc qui amène une idée jusqu'à quelque chose qui devient tangible. Donc il y a tout un tas de facteurs qui font faire émerger, faciliter cette innovation. Et après, il y a le résultat tangible qu'on va considérer à un moment donné comme être une innovation ou ne pas être une innovation. D'accord ? Donc c'est la qualification de quelque chose comme une innovation. Donc souvent c'est un peu mélangé. Il y a le processus qui est innovant, ou qui facilite l'innovation, et puis il y a le produit qui peut être, ou le sujet qui peut être innovant. Donc déjà il y a un problème sur l'innovation en tant que telle, comme résultat. Est-ce que c'est l'innovation technologique, l'innovation d'usage? Est-ce que c'est... Donc il y a déjà une certaine, un certain changement à avoir dans la société où finalement on est passé centré technologique, l'innovation c'était que la technologie. Et aujourd'hui, ça commence à s'élargir en termes de représentation, l'innovation d'usage est pris en compte, l'innovation sociale, tout un tas d'autres choses. Donc déjà nous, on essaie de regarder un petit peu tous ces sujets-là. Et en termes de processus, la recherche... Donc si on prend aussi un produit par exemple, ou une typologie d'innovation, on va avoir ce qu'on appelle l'innovation de rupture, l'innovation incrémentale, l'innovation d'assemblage, ce genre de choses. Et c'est une intensité d'innovation. Quoi. Pour faire l'innovation de rupture, c'est des grands changements sociétaux. Quoi. Donc, on prend par exemple le passage de la vidéo cassette au DVD, à la vidéo à la demande. Ça, c'est des changements de rupture. Ça change tous les comportements de la société en même temps. C'est ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Et pour faire ça, il faut de la recherche, il faut du développement long terme, il faut ce genre de choses. Et donc, pour moi, la recherche est un des outils pour faire l'innovation de rupture. Et de prendre très, très longtemps à l'avance. Mais tu peux faire l'innovation même à un an, à 2-3 ans, si tu as une stratégie d'innovation, d'assemblage incrémental, par exemple de passer de l'invention du Vélib ou de l'autolib plutôt, la location de la voiture le vélo Vélib existait déjà. Il y a eu cette invention, donc c'est un truc incrémental, un changement de contexte en fait. Et puis voilà, j'ai juste innové comme ça, quoi. C'est déjà une stratégie. Et j'ai pas besoin de la recherche pour ça.
C'est considéré comme de l'innovation.
De quoi?
Ce que vous venez de donner comme exemple, oui. De passer du Vélib à l'autolib, c'est de l'innovation.
Ouais. En gros, tu dis soit j'apporte quelque chose de complètement nouveau pour tous les contextes, soit j'ai quelque chose de nouveau dans un contexte que je réadapte dans un nouveau contexte. Donc il y a ces conditions d'adaptation, d'idées aussi de l'adapter dans un nouveau contexte, qui n'est pas forcément évident non plus, et que moi je considère aujourd'hui comme une innovation. Ouais.
L'amélioration continue d'un processus donné n'est pas considéré comme une innovation.
L'amélioration continue?
Continue d'un processus déjà existant. Par exemple, sur une part sur le recyclage du plastique,
ouais.
Si on améliore le processus, c'est aujourd'hui connu dans un processus plastique, par exemple.
Ouais.
C'est pas considéré comme une innovation.
Si. Si on arrive à montrer ce qu'on a fait de différent, quoi, de nouveau. Mais justement, ça fait partie de même de la stratégie de. Collaborative d'un tel projet, d'avoir des innovations qui viennent justement ancrer le projet et le faire vivre. Quoi. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va inventer une nouvelle machine dans le processus plastique ou qui va réussir à montrer que ça peut être déployé à grande échelle parce qu'il a inventé un modèle organisationnel. Quoi. Voilà, pour moi, c'est une grosse innovation parce que ça lui a permis d'aller plus loin. Ouais. Et après, il y a des rapports qui existent sur l'innovation qui... Il y a le manuel d'Oslo, par exemple. Le manuel d'Oslo, c'est 15 ans, c'est l'OCDE en fait, hein, qui fait des études sur l'innovation et qui rend des rapports assez régulièrement sur la vision de l'innovation. Et c'est ce genre de rapport qui influe sur les financeurs, en fait, la Commission européenne, l'État, et c'est pour ça qu'ils changent leur ligne politique aussi des fois. Donc c'est pour ça que c'est important d'influer aussi sur de regarder ce qui se passe. Et puis des fois, bah, y a des gens qui sont proches de nous qui ne sont pas acculturés à ça, alors que c'est déjà inscrit dans les stratégies. Par exemple, l'open source, c'est inscrit dans la stratégie de la Commission européenne. Et ça ne veut pas dire que sur le terrain, les gens l'acceptent.
Bah, merci.
Merci à vous.
Est-ce qu'on enchaîne la deuxième causerie du coup ? Allez. Donc du coup sur la deuxième causerie on aura Marc Fournier qui est ici qui nous parlera de son expérience. Marc a cofondé un espace dans Paris qui avait entre autres un tiers-lieu dans Paris qui avait entre autres la particularité d'avoir des équipements de laboratoire et d'activités de recherche.
Est-ce que vous voulez qu'on reste à l'extérieur?
Ouais, est-ce que vous faites une mini pause
Ah, il y a une pause de thé.
Ah, ok. Façon,
ouais. Est-ce que vous voulez qu'on reste dehors ou est-ce que...
Ouais, pas cool.
Moi, ça va.
Ouais, ouais. Je suis bien dehors. Ouais.
So there's a break in. Bien.
À plus.
Je vais travailler. Il va? Ok, ouais. Ça marche.
Bye, guys.
Bye.
Ça y est, déjà
l'université.
L'UBO à Brest.
Oui. Vous êtes ouvert du coup au public, mais pour l'instant vous êtes en train de resserrer vos liens entre la recherche et les thématiques suggérées pour le projet.
On fait tout ça en parallèle. En fait, le but c'est de rester toujours dans l'action.
Non, mais
ce qui se passe à l'extérieur bouge aussi, quoi. Sur le terrain, faire des collaborations. De l'autre côté, on essaie de formaliser des choses au niveau de l'université, pour faciliter les. Parce qu'au départ, c'est que des expérimentations quand même. C'est assez lourd au niveau administratif. Et donc, plus on arrive à faire des choses, plus après ça devient de quotidien. C'est normal. Par exemple, l'accueil de personnes particulières,
le temps qu'on trouve vraiment un lieu
en sécurité, comment ça se passe,
ce qui est la vie du lieu. Je pense à ça autour de moi. Moi j'ai passé quelques temps.
Non, il faut partir.
Il faut partir. Autour de formation, sur un secteur donné. Une médiathèque qui s'est inscrite à partir de 2014 dans un secteur construit, proche de Rennes,
gagne un prix.
Dans un territoire qui veut bouger autour de la culture.
Tu remets tout ça en open source,
que le public que j'accueille gagne un prix. J'ai fait un lien avec la recherche.
Je me suis rendu compte qu'il y a un